C'est l'un des principaux sujets de débat de cet entre-deux-tours. Les retraites. Emmanuel Macron veut reporter l'âge légal de départ à 64 ou 65 ans. Marine Le Pen veut le maintenir à 62 et même l'avancer pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Au fil des années, dans ce débat récurrent, nous avons tous plus ou moins appris qu'il y a plusieurs critères à considérer. Âge légal, durée de cotisation, âge pour une retraite à taux plein, niveau des pensions et niveau de la dépense publique que nous consacrons collectivement aux retraites. Rappelons les règles actuelles. L'âge légal de départ, c'est 62 ans. Durée de cotisation requise, 43 ans pour les générations les plus récentes. Les retraites représentent une part très importante de la dépense publique. Alors une réforme s'impose-t-elle pour préserver le niveau des pensions, pour limiter les déficits des comptes sociaux ou dégager de l'argent pour financer d'autres réformes? La dépendance, par exemple. Essayons d'y voir clair dans ce sujet ultra complexe. Notre invité jusqu'à 13h45 est économiste au CNRS et à l'École Normale Supérieure. Bonjour Philippe Askenazy.
Bonjour.
Dans cette batterie de chiffres, il y en a encore un que je n'ai pas donné. Le niveau moyen des pensions, tout régime confondu, en chiffreront 1500 euros, un peu moins de 1400 euros net. Faute de réforme, Philippe Askenazy, est-ce que le niveau moyen des pensions risque de baisser?
Alors, si on parle en termes de pouvoir d'achat lié à ces pensions, non. Tout est fait pour qu'il soit stabilisé. En soi, dans le code même de la sécurité sociale, il doit y avoir normalement indexation sur les prix des pensions. En revanche, les réformes successives qui ont été mises en œuvre font qu'il va y avoir progressivement un décrochage des pensions par rapport aux revenus des actifs, tout simplement parce que il y a une croissance économique, ce qu'on appelle des gains de productivité, les salaires qui progressent un peu plus vite que l'inflation, oui, sur le long terme. Et là, pour le coup, comme il n'y a pas d'indexation sur les salaires, il va y avoir un décrochage des retraités par rapport aux actifs.
Vous parlez d'indexation sur l'inflation, elle existe déjà? Quand les candidats nous disent il faut indexer sur l'inflation, ça existe déjà?
En fait, oui, c'est quelque chose de très très surprenant. Ça avait été acté dès les années 1990 avec Jacques Chirac, qui avait posé cette indexation, oui, sur l'inflation. Et en fait, ce sont les gouvernements dans les dernières années qui, alors même que c'est inscrit dans le code de la sécurité sociale, ont, à travers les lois de sécurité sociale, à chaque année, sous-indexé, oui, les pensions. Donc en fait, il s'agit juste d'un engagement de respecter les promesses passées. On ne peut pas parler de réforme.
Indexé sur les salaires, ça existait jusque dans les années 80. Ça aurait un coût important?
Oui, alors là, pour le coup, oui, vraiment significatif, du fait du vieillissement de la population. Donc on aurait, si on se place à un horizon de long terme, mettons 2050, ça signifierait que le poids des pensions qui est attendu pour cette période-là, 13,5%, mettons 14% du PIB, serait de l'ordre de 3 points supplémentaires, donc ce qui représente 60 milliards d'euros aujourd'hui.
Y a-t-il un besoin de financement, oui ou non, pour le régime des retraites? Et peut-être faut-il distinguer le court et le moyen terme, Philippe Askenazy?
Sur le court terme, il y a toujours des effets des crises économiques qui peuvent créer des déficits à tout moment.
Il est en déficit.
Il est actuellement en déficit. Alors, on est dans une situation assez particulière où on a une crise sanitaire. Or, cette crise sanitaire, malheureusement, entraînant des dizaines de milliers de morts, notamment de personnes qui étaient soit à la retraite ou proches de la retraite, font qu'il y a eu un déficit très important en 2020, va amener en fait à des moindres pensions versées, tout simplement parce qu'il y a eu cette mortalité dans les années qui viennent. Donc il y a un effet un petit peu neutre, parce que là on a une crise économique, mais avec une crise sanitaire qui a très fortement affecté des populations qui auraient dû, dans les années à venir, toucher des pensions. Donc, pas véritablement d'effet de la crise sanitaire. Et sur le long terme, si on regarde en part justement de la richesse nationale qu'on, oui, a versée aux pensions, eh bien, même dans les scénarios les plus pessimistes du COR, donc du Conseil d'orientation des retraites, qui fait très largement consensus, au moins parmi les économistes, même dans ce scénario le plus pessimiste, eh bien, le poids des retraites ne va pas progresser, même à un horizon 2070, même il devrait être plus faible à un horizon 2070. Donc la France a la capacité de payer ses retraites sans la moindre réforme aujourd'hui et avec une indexation automatique des pensions. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas des déficits qui puissent se créer. Ça, c'est un autre type de question, c'est comment on finance les retraites.
Avant de prendre la question d'Annick au standard, est-ce que une réforme des retraites décalée l'âge légal de départ, puisque c'est de ça qu'il s'agit, peut se justifier au fond pour financer d'autres aspects de l'action sociale, par exemple financer la dépendance, qui est aujourd'hui une branche qui existe, mais qui est une coquille vide.
Alors, ça, c'est vraiment un choix politique.
Ou financer l'augmentation des petites retraites.
Alors, l'augmentation des petites retraites ne représenterait pas des sommes considérables. Il faut savoir que ce qui, par exemple, la promesse d'un des candidats de porter les retraites lorsque on a eu une carrière complète, etc., à 1100
euros. Ça, c'est Emmanuel Macron.
Voilà, Emmanuel Macron. Pour ce qui est des fonctionnaires, ça ne changera pratiquement rien parce que la plupart des fonctionnaires ont ce qu'on appelle un minimum garanti pour ce type de carrière qui est déjà au-dessus de 1100 euros. Et pour beaucoup de salariés du privé, en fait, si vous reportez l'âge de la retraite, enfin, si vous décidiez aujourd'hui de prolonger jusqu'à 65 ans, oui, vous pourriez bénéficier pour beaucoup d'entre eux ce qu'on appelle la surcote, au lieu de partir à 62 ans, et vous arriveriez à atteindre une pension pas très très éloignée des 1100 euros. Donc en fait, voilà, il n'y a pas véritablement de coût majeur à remonter les petites retraites.
Ça, c'est les petites retraites. Décaler l'âge légal pour financer, par exemple, le risque dépendance.
Alors là, c'est vraiment une question de choix politique. Si vous voulez, le risque dépendance, c'est quelque chose qui concerne tous les Français, que vous ayez travaillé durant votre vie ou jamais. Donc, on pourrait considérer, imaginez, vous avez été rentier toute votre vie, vous allez quand même bénéficier de ces prestations dépendance. On peut discuter le fait que ça soit des régimes des retraites salariés qui doivent financer la dépendance et non pas, en fait, un financement global de la part de l'État, une solidarité nationale qui soit portée, par exemple, par la CSG, donc par une assiette d'impôt, la TVA, une assiette d'impôt qui concerne l'ensemble de la population. Donc là, c'est un choix politique, il faut le poser tel quel, d'un point de vue économique, c'est en quelque sorte des vases communicants selon les types de financement.
Je résume ce qu'on s'est déjà dit, pas d'urgence à réformer, pas d'urgence financière à réformer le système, l'augmentation des petites retraites ne coûterait pas trop cher, décaler l'âge légal pour financer d'autres choses, par exemple la dépendance, c'est un choix politique. Si on prend ce que propose Marine Le Pen, c'est-à-dire rester à 62 ans, voire baisser à 60 pour ceux qui ont commencé très tôt. Ça coûterait, nous dit l'Institut Montaigne, 26 milliards. C'est un coût très important, ce que propose Marine Le Pen.
Alors, oui, c'est un coût important. Alors, elle-même, ses équipes chiffrent à 10 milliards.
Absolument, exact. Vous avez raison.
Je vous avoue que c'est très difficile de savoir où placer le curseur parce qu'il n'y a pas de détails dans sa proposition. Notamment, le départ à 60 ans, si vous avez travaillé avant l'âge de 20 ans, elle ne définit pas véritablement ce que c'est que travailler. Est-ce que être en alternance, c'est avoir travaillé? Est-ce que avoir fait des petits boulots l'été, c'est avoir travaillé? Avoir fait un stage, c'est travailler? On ne sait pas. Donc c'est quand même assez flou, de la même manière que chez l'autre candidat, il y a beaucoup de paramètres qu'on est loin de connaître. Donc probablement le chiffrage est entre ces deux bornes, entre 10-20 milliards d'euros, un demi à un point de PIB.
Parle d'un coût exorbitant, pour employer un adjectif
si vous voulez, là
désagréable
aussi. Alors non, désagréable, je ne sais pas, mais en tout cas, ne serait-ce que lorsqu'on regarde l'État, l'évolution de ce que verse actuellement l'État pour subventionner les régimes spéciaux et d'autres régimes de retraite. Il est de l'ordre de 20 milliards d'euros, 40 milliards d'euros actuellement, et il va progressivement décliner, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de personnes concernées par ces régimes spéciaux. Oui. Ils sont en déclin démographique, et à un horizon de 10 ans, cette facture, entre guillemets, devrait diminuer de 10 milliards d'euros. Donc vous voyez, typiquement, le raisonnement que peut faire Marine Le Pen, c'est de dire cet argent-là, je vais le mettre dans ma réforme des retraites. Mais là aussi, on peut très très largement discuter. Cette subvention-là, elle pourrait être utilisée à toute autre dépense de la part de l'État, et notamment une dépense pour financer la dépendance.
Question d'Annick au standard pour vous, Philippe Askenazy. Bonjour Annick.
Oui, bonjour. Merci de nous appeler. Écoutez, moi, c'est juste sur... Vous avez déjà abordé le sujet. Mon inquiétude, moi, est sur l'annonce, effectivement, de Madame Le Pen de passer la retraite comme étant éligible à 62 ans, avec le critère, quand même, de cette notion de carrière complète. Comment, ma question est simple, comment rendre lisible ce critère qui risque, effectivement, comme vous l'avez développé, mais que, éventuellement, les gens qui vont aller voter n'auront pas entendu, ce critère risquant d'être relativement exclusif et, de mon point de vue, trompeusement attractif électoralement.
Philippe Askenazy, votre réponse.
Oui, alors, dans, donc, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs paramètres. Donc, elle maintient, en fait, lorsqu'on arrive 62 ans, pour la plupart des Français, ça donnerait toujours cette même démarrage d'un âge légal de liquidation de sa retraite. Sauf qu'elle propose dans le même temps qu'une carrière complète passe de 43 annuités à 42 annuités. C'est là où, en fait, se loge l'essentiel du coût supplémentaire de ce que propose Marine Le Pen. Bon, voilà, est-ce que fondamentalement ça changerait la donne ? En soi, c'est peut-être pas si évident que cela. Il faut dire que dès à présent, aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite des Français, c'est pratiquement 63 ans.
Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser.
Déjà, les Français travaillent au-delà des 62 ans. Je ne pense pas que ça changerait leur comportement.
Et l'âge moyen de départ à la retraite, carrière complète, est-ce que vous avez ça en tête ? Je ne veux pas vous piéger, vous avez plein de chiffres en tête, Philippe Pascal.
Vous allez me piéger.
Mais c'est au-delà des 63. C'est ça la question.
Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que plus vous avez eu une carrière stable, plus en fait vous êtes dans des catégories de plutôt de cadres ou de fonctionnaires. Donc vous avez eu cette carrière stable, une carrière complète, et vous avez la possibilité, vous êtes plutôt dans des métiers, c'est pas par exemple les enseignants, même dans mon métier de chercheur ou pour les cadres qui auront eu ces carrières complètes, dans des métiers où vous pouvez rester, parce que vous avez des conditions de travail qui vous le permettent, notamment, vous pouvez rester bien au-delà des 62 ans. Si on prend donc les chercheurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite, c'est 67 ans. Donc
d'accord.
Vous voyez, on est très très loin de cette barre de 62 ans.
Je vous ai en face de moi, vous êtes loin de la retraite, donc Philippe Askenazy.
Oui. Voilà, donc si on... Bref.
Allez, question de Florence au standard. Est-ce que vous êtes
bonjour.
Avec nous ? Bonjour, vous nous appelez de Mel dans les Deux-Sèvres.
C'est ça, voilà. Je voulais qu'on m'explique simplement où est la logique de vouloir repousser l'âge de la retraite, alors que tout le monde sait qu'à passer 55 ans, il est quand même assez difficile de trouver du travail. Alors préfère-t-on mettre les gens au-delà de 55 ans au chômage plutôt que de leur offrir la retraite qu'ils auraient méritée ?
Merci pour cette question, Philippe Askenazy.
Alors, ce que l'on a pu voir des précédentes réformes, et ce que l'on voit également à l'étranger, c'est que plus on repousse l'âge de départ à la retraite, plus on rallonge le nombre d'annuités, plus les personnes souhaitent rester en emploi, tout simplement pour avoir une retraite décente. Et du côté des entreprises, bah, évidemment, se séparer d'un salarié lorsque c'est l'âge de départ à la retraite, c'est en soi bien plus aisé que si l'âge de départ est repoussé. Donc ce que l'on observe en pratique, c'est que lorsqu'on fait ce type de réforme, les personnes restent en emploi plus longtemps et effectivement en emploi. Alors on a un double phénomène, à la fois plus de chômage des seniors, mais aussi plus de seniors en emploi. Donc, voilà, là aussi, c'est des questions de choix, d'éléments de choix de société. Est-ce que on veut privilégier un départ précoce ou accepter finalement qu'une part des seniors et des fins de carrière difficiles avant d'atteindre une capacité d'accéder à une pension.
Mais l'argument qu'on entend par exemple du côté d'Emmanuel Macron selon lequel quand on décale l'âge légal de départ à la retraite, on décale aussi l'âge auquel les seniors ont du mal à trouver du travail, cet argument est en partie recevable si je vous suis bien.
Alors il est en partie recevable, mais il y a en quelque sorte des limites, c'est-à-dire que voilà, on est passé d'un univers de 60 à 62. Ça n'a pas signifié que immédiatement la barrière s'est prolongée de 2 ans. Oui. Donc voilà, si vous passez à 65 ans, mettons que voilà, il y aura 1 an et demi, vous rallongerez votre carrière dans votre entreprise, mettons de 1 an et demi en moyenne, pas de 3 ans. Donc Voilà, c'est un argument exact, mais qui n'est que partiel en quelque sorte. Il ne peut pas y avoir la promesse que vous allez rester en emploi stable 3 années supplémentaires.
Dernière question, Philippe Askenazy, est-ce qu'on peut mener une réforme des retraites qui tiendrait compte de la pénibilité, puisque évidemment c'est une question clé, sans créer une usine à gaz, pour le dire vite?
Ben, oui, très probablement. Je pense que c'est... De fait, il y avait eu un dispositif pénibilité qui a été réduit par l'actuel gouvernement. On peut arriver à construire ce type d'outils parce que... Alors, évidemment, il y aura toujours peut-être des éléments d'inégalité, mais on a désormais une information quand même assez précise des carrières qu'ont pu faire les personnes, le type de poste qu'elles ont pu avoir, dans quel type d'entreprise. Donc, très probablement, statistiquement, le type de pénibilité auquel elles ont pu faire face et la perte, en fait, d'espérance de vie qu'ont subi ces personnes. Donc, c'est un outil qui peut tout à fait être construit.
Merci beaucoup Philippe Askenazy d'être venu dans les studios de France Inter répondre à nos questions sur ce débat important et ô combien technique de la réforme des retraites. Il est 13h45.